Donc, le déroulé de la rencontre, donc on va faire une brève, très brève présentation de Brued'aide. Ensuite, on aura le témoignage de deux collectivités, Gwenaëlle Craes, maire de La Grigonnais, qui nous présentera son projet en cours de construction de restaurant scolaire. Et Jean-Paul Vuichard, qui est adjoint au développement durable de la commune de Laillé, qui nous présentera le projet réalisé de rénovation de la commune. Après chaque témoignage, on aura une petite session de questions-réponses pour préciser certains points d'après vos questions sur les témoignages. Et ensuite, on aura en deuxième partie du webinaire une présentation de Michael sur les points clés d'une démarche de construction-rénovation durable réussie. Voilà. Et enfin, on finira par une petite demi-heure d'échange entre participants. Favoriser le lien entre les élus, c'est un peu le credo de Brued'aide. Je vais laisser la parole à Michael pour présenter Brued'aide. Il faut que tu t'entends pas, Michael.
Ouais, faut que tu passes la diapo si tu veux bien. La plupart d'entre vous sont donc adhérents, donc vous connaissez bien le réseau Brued'aide. Aujourd'hui, le réseau compte à peu près 185 communes et intercommunalités adhérentes. Si on additionne les habitants de l'ensemble des collectivités adhérentes, bah, Brued'aide, c'est une grosse métropole, c'est 550 000 habitants représentés. Et on va retrouver dans le réseau tout aussi bien des communes de quelques 200 habitants que des villes aujourd'hui autour de 12 000, 14 000 habitants, et puis quelques intercommunalités qui peuvent dépasser les 60 communes, 60 000 habitants. Hein. L'objectif de Brued'aide, c'est de favoriser l'échange et le partage d'expériences entre des élus qui ont fait et des élus qui veulent faire, d'où les deux témoignages que vous allez avoir. Et en parallèle, l'équipe rassemble les différentes manières des collectivités pour porter des projets, pour les capitaliser, les mettre à disposition de tous à travers des visites, des rencontres, à travers le site internet, à travers les brèves. Si vous êtes abonné aux brèves de Brued'aide, on peut s'y abonner gratuitement sur notre site. Vous aurez quelque part ces retours d'expérience pour vous permettre d'avancer plus vite et plus loin dans vos projets. Gwenaëlle Craes, qui témoigne tout à l'heure, est secrétaire de Brued'aide, donc vous pourrez l'interroger en tant qu'élu, voilà, et en tant qu'administrateur de Brued'aide, sur le réseau éventuellement. Et puis beaucoup d'entre vous sont adhérents, donc pourront témoigner de l'intérêt qu'ils trouvent dans le réseau auprès d'élus qui auraient des questions. Voilà, j'arrête là-dessus, Guillaume.
Guillaume,
Ouais.
tu tailles dans Diaporama et tu décoches afficher les contrôles multimédia.
Afficher les contrôles multimédia, j'y ai pas accès.
Ah, bah dans Moniteur, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Là, descend, hop là, t'as quoi?
Utiliser le mode présentateur.
Hop, là tu redécoches
Ouais.
et tu relances ta visio.
Ok. Merci, Michael. Gwenaël, pardon. Eh ben, ça va être à toi, Gwenaëlle, de présenter ton témoignage. Donc, je vais te donner la main. Voilà. Donc, Gwenaëlle Craes, maire de La Grigonnais, pour le témoignage du projet de construction de restaurant scolaire.
Bonjour tout le monde, juste le temps de partager mon écran. Juste le temps de trouver où est-ce qu'on partage l'écran.
Donc c'est tout en bas, Gwenaëlle, à côté de chat. Tu as un petit logo écran partagé.
C'est pas sous la barre
Non.
d'anglais, en
Je suis meilleur en PowerPoint quand
bas.
j'ai partagé l'écran. Ok. Toc. Là, vous voyez quelque chose sur mon écran? Non, rien.
Pas encore.
Partager. Allez.
Super, ça arrive.
Hop. Hop, sauf que c'est pas le bon. Donc, partager. Voilà. Donc, la Grigonnais, commune de Loire-Atlantique, située entre Blain et Nozay, à mi-chemin entre Rennes et Nantes. Donc, en fait, en 2017, nous, on a porté une réflexion sur notre restaurant scolaire. Donc là, en photo, vous voyez l'entrée de notre restaurant scolaire qui est attenant à la mairie. On avait différentes problématiques sur ce bâtiment. Un bâtiment vieillissant qui a été construit en 87, donc qui a plus d'une trentaine d'années. Un espace d'accueil de plus en plus restreint. Aujourd'hui, on est à 180 enfants, mais en 87, il n'était pas taillé pour recevoir autant d'enfants. Donc, on est en optimisation optimale de l'espace. Alors, en tant que Covid, je ne vous raconte pas les difficultés. Sur ce restaurant, jusqu'à septembre, nous étions sur une gestion par une association de parents d'élèves. Mais déjà en 2007, on voyait se pointer le nez de la municipalisation de la restauration scolaire. Et la spécificité sur notre restaurant, c'est qu'on est sur un approvisionnement principalement bio et local, donc 70% de bio et 90% local. Du coup, par rapport à la loi Egalim, on est plutôt pas trop mal. Sur le projet de nouveau restaurant scolaire, donc au tout début, le cahier des charges a été relativement simple. C'était de créer un nouveau restaurant scolaire, plutôt orienté sur une base de matériaux biosourcés pour une partie de la construction, et de pouvoir maintenir un fonctionnement équivalent à celui qu'on a aujourd'hui. Tant au niveau de l'organisation de la cuisine, de l'accueil, qu'au niveau de la cuisine où toute la cuisine est faite sur place. En termes d'approche, en 2009, hein, le conseil municipal de l'époque avait pris une motion de vœux qui indiquait notre volonté. De vouloir porter l'aspect développement durable sur tous nos projets. Donc, les mandats ont tourné, mais cette volonté est restée. Et c'est en ce sens qu'on a travaillé sur le projet. Donc, au niveau du projet en tant que tel, on a recruté dans un premier temps un programmiste, alors pour différentes raisons. Pour élaborer une étude préalable, donc avec une vision assez macro de la chose, hein, de pouvoir nous faire un pré-programme avec une approche financière pour pouvoir voir comment on allait jalonner ça dans le temps et amorcer déjà quelques réflexions sur la partie architecturale. Sur la fin, donc au moment du recrutement de la maîtrise d'œuvre, ce programmiste nous a aussi assisté dans le choix de la maîtrise d'œuvre. Donc sur cette phase-là, différents intervenants sont rentrés dans la boucle. On a une réflexion qui ne s'est pas limitée uniquement à l'équipe municipale. Mais on a intégré l'association de parents d'élèves, la Grignotte, hein, et le personnel de la cantine pour différentes raisons. Déjà, plus on réfléchit à plusieurs, meilleures sont les idées, je trouve. Et ça nous a permis de lister les différentes peines rencontrées donc, sur les différents intervenants. Les besoins fonctionnels. Qu'un tel ou un tel souhaitait voir dans ce nouveau projet et la prise en compte de toute l'organisation des espaces, tant au niveau de la cuisine que sur l'accueil des élèves. Et un des éléments annexes de ce bâtiment, c'est le temps de trajet école-cantine. Parce qu'aujourd'hui, la cantine, le restaurant scolaire se situe à peu près entre les deux écoles publiques et privées. Et on ne souhaitait pas rallonger les trajets par rapport à ce qu'il y avait déjà. Donc on a pris en considération cet élément-là. Donc, tout à l'heure, je vous évoquais la volonté de l'équipe municipale d'utiliser des matériaux biosourcés. Sur cette phase de programmiste, on n'avait pas d'idée reçue sur l'utilisation de tel ou tel matériau. On avait évoqué au début, par exemple, la terre crue, la paille, le bois et d'autres éléments. C'est plus tard qu'on a précisé en fait sur quel matériau on souhaitait aller. Donc ce programmiste nous a permis d'élaborer un pré-programme et sur ce pré-programme, un préchiffrage qui était estimé à la base à 1 295 000 euros. Donc, suite à cette première phase, la maîtrise d'œuvre, donc là où le programmiste nous a assistés, donc un appel d'offres a été émis et ce sont 14 postulants qui ont répondu. Alors, petite subtilité, c'est que cette phase de maîtrise d'œuvre se faisait en parallèle l'élaboration de notre plan guide, donc avec le bureau d'études TICA. Donc, certains éléments en termes de situation n'étaient pas encore très clairs. Hein. Et dans cette phase de maîtrise d'œuvre, en fait, on est venu à préciser plusieurs éléments. Donc, sur les 14 postulants, on a été vigilant à l'organisation des équipes, avoir des personnes qui étaient plutôt orientées sur ces nouveaux matériaux et non pas se limiter à que du béton. Lorsque donc sur la maîtrise d'œuvre, donc on est parti avec Louvel et ils étaient accompagnés eux d'une personne spécialisée dans tout ce qui était énergie renouvelable. En plus des références qui proposaient. On s'est orienté rapidement dessus, sachant que Louvel avait une appétence pour tout ce qui était nouveau mode de construction. Donc, je vous ai évoqué certains points qui n'étaient pas forcément carrés. Hein. C'est pourquoi, sur cette phase de maîtrise d'œuvre, hein, il a fallu qu'on vienne affiner certains critères. Hein. C'est pourquoi après maintes réflexions, on en est venu à partir sur le choix de végétaliser une partie de la toiture. On verra plus tard sur le plan. Travailler avec du mur bois paille en matériaux biosourcés, sachant que sur cet aspect mur en bois paille, on avait la contrainte de la cuisine qui, elle, ne pouvait pas, pour des raisons de sécurité, disposer de ce type d'ossature. Donc, mais bon, ça reste quand même une belle partie de l'ouvrage. Alors, matériaux biosourcés, et on a fait le choix du local, hein, parce que voilà, nous, on aime bien travailler avec des personnes proches, hein, et on a eu la possibilité d'acheter de la paille, hein, sur notre commune. Et un atelier participatif s'est effectué pour créer les ballots de paille, puis les ranger dans un hangar d'un agriculteur de la commune. Au niveau du bardage bois, c'est pareil, la démarche locale nous semblait importante, hein, et on a trouvé un scieur, hein, à Blain, donc c'est la commune voisine qui est à une dizaine de kilomètres. Hein. Qui lui proposait de se fournir dans les 40 km, dans un rayon de 40 km. Un des autres critères, sur notre commune, il y a déjà eu des visites Boudaid à ce sujet. On a un réseau de chaleur plaquettes bois. On ne voyait pas d'autres modes de de fourniture de chaleur dans ce restaurant. Donc, une des contraintes, c'était de pouvoir connecter ce nouveau bâtiment à ce réseau de chaleur. En termes de nombre de repas, donc là, je vous disais tout à l'heure qu'on était à 180 en capacité sur l'actuel restaurant. Au vu de l'augmentation de la population, on a souhaité partir sur une quarantaine de repas en plus, hein, par jour, hein, ce qui orientait un peu aussi la taille du bâtiment. Initialement, sur le projet, on partait sur une salle à manger uniquement, donc où tous les enfants sont assis servis à table, hein. Et on a eu l'opportunité de visiter deux ou trois selfs, je ne sais plus trop, pour voir comment eux fonctionnaient. Et on s'est aperçu que une ligne de self, hein, alors pas forcément pour les maternelles, mais pour les élémentaires, était loin d'être déconnant. Et on s'est orienté là-dessus, ce qui permet une certaine fluidité dans l'assise des enfants. Et en fait, on a été plutôt intelligent sur ce coup-là parce qu'avec le Covid, hein, je pense que le fait d'avoir un self, hein, ça va être un peu plus pratique à l'usage. Hein. Bon, il ne faut pas espérer que ça continue encore et encore, mais bon. Une des erreurs sur cette phase-là qu'on ait fait, c'est la non-prise en compte de la toiture pour l'installation de panneaux solaires. Après, bon, voilà, c'est une erreur. C'est en faisant des erreurs qu'on avance. Hein. Donc on saura que pour les prochains bâtiments, il faudra avancer sur cette thématique-là.
Gwenaël, il y a déjà 10 minutes du coup qui sont
Ah,
passées.
déjà. Dis donc, ça passe
Ça
vite.
passe vite.
Ouais. Donc l'appel d'offres qui en a découlé a été lancé sur 16 lots. On était sur une période où les réponses étaient un peu compliquées, des délais un peu restreints. Donc, il a fallu qu'on relance un deuxième appel sur certains lots. Bon, je voulais la faire rapide à ce niveau-là. Hein. Et du coup, on a pris du retard sur l'aspect calendaire. Donc, là où le programmiste partait sur un chiffrage à 1 295 000, au dépouillement des différentes offres, hein, on est arrivé à 1 520 000. Hein, donc, c'est quand même assez important comme delta, mais bon, on n'avait pas forcément d'autre choix que d'aller là-dessus. Donc avec les honoraires, on est à un projet à 1,7 million. Toc, toc, toc. Ce qui fait que sur la base du bâtiment qui est prévu autour de 600 mètres carrés, on est sur une base de 2 millions, 2 millions, n'importe quoi, 2 900 euros le mètre carré, et en comptant le vide sanitaire. Hein, parce que la cantine est à cheval sur deux niveaux, on est sur un coût au mètre carré à 1 600 euros. Là, je vous ai affiché la répartition des coûts, hein. Donc, le gros du projet, c'est le gros œuvre, hein, 20% du coût, hein. La partie terrassement et la partie chauffage. Par rapport au fait de relier au réseau de chaleur. Donc là, vous avez une vue aérienne de l'organisation. Alors ça, c'est la version finale, hein. Différents scénarios ont été proposés à la base, hein, en termes de positionnement de salle. Hein. Au vu des visites qui ont été faites dans les autres cantines, on est parti sur ce schéma-là avec un self au milieu. Donc, cette partie avec des points verts, hein, est au niveau sous-sol, hein, et la partie grise qui est là est au niveau salle à manger, c'est la cour du périscolaire. Donc une ouverture sur l'espace, hein, et du coup en termes de surveillance d'enfants, c'était plus intéressant car c'est un espace clos. Donc là, l'organisation de la salle, on passe rapidement. Pas grand-chose à dire, hormis que là, à ce niveau-là, on est orienté plein sud. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt l'aspect sensibilité sur les matériaux et les énergies. Donc, orienté sud ici, hein, avec une vue traversante, hein, donc de l'autre côté ici, ouvert sur la cour. Quelques photos de la conception des murs, hein, donc bois paille. Hein, donc ça, c'est notre prestataire. Hein, c'est pas pris sur Google, c'est nos murs qui étaient en construction. Donc là, on voit un peu le processus de conception. Ils insèrent la paille. Ensuite, ils mettent du pare-vapeur autour pour étanchéifier un peu la structure. Un des critères aussi, c'était le bruit dans le réfectoire. On sait que les enfants ne sont pas forcément silencieux quand ils se regroupent en restaurant scolaire. Et on a regardé les différentes possibilités qu'on avait. Le BA13, on ne voulait pas partir là-dessus. On voulait quelque chose de plus noble. Du coup, on a trouvé cette solution, les dalles acoustiques en laine de bois, ce qu'on appelle les Organic Twin. Pour ceux qui étaient allergiques, c'est ce qu'il y avait dans la salle, au mur. Faites appel à votre mémoire. Et du coup, le branchement réseau de chaleur, plaquette, bois existant. Point de situation à ce matin, voilà, ça c'est tout frais il y a 2-3 heures, l'évolution du bâtiment. Donc là, on retrouve le sous-sol, donc qui est quand même assez imposant en termes de surface, et l'étage qu'il va donner sur la cour. Donc, vue de la cour, tout ça, c'est une baie vitrée en fait accordéon. Donc au beau jour, on pourra ouvrir complètement le mur. Pour avoir un accès direct sur le périscolaire. Alors, comme tout projet, il y a des points où on a été bon et d'autres où on a été moins bon. Sur la paille locale, qui a été fait en chantier participatif, on l'a fait dans les règles, sauf que, il y a une mauvaise prise en compte de la perte d'humidité lors du séchage, ce qui fait que le bureau de contrôle a recalé nos bottes de paille et il a fallu qu'on rachète la même quantité. Avec le prestataire qui s'occupait de toute la partie boiserie. Donc là, on est en train de revendre de la paille si des personnes sont intéressées. C'est 2,50 la botte de paille par lot de 100 minimum. Sur le bois bardage, là, c'est d'autres formes de contraintes. Donc l'artisan à Blain est tout seul. Le bureau de contrôle lui demandait énormément de certificats de contraintes administratives. Qui fait qu'on avait perdu beaucoup de temps et étant donné que ça devenait trop lourd administrativement, il s'est retiré du marché et il a fallu qu'on trouve une autre solution. Au résultat, ce sont des écueils en termes de coûts, c'est assez transparent. Au delta près, qu'il faut qu'on revende à peu près 1000 bottes de paille, mais bon, ça c'est à la marge. Au niveau des manques, c'est un manque de réflexion sur la partie utilisabilité du vide sanitaire, où on a tout un espace, on a beaucoup d'espace, à peu près 300 mètres carrés non utilisés. Et là aujourd'hui, il faut qu'on trouve quelques idées. On en a déjà, avec éventuellement un parc vélo ou un local détaché pour les services techniques pour du stockage. Ça sera dans un second temps. Et la petite cerise sur le gâteau, une petite vidéo d'une minute qui détaille un peu comment sera le restaurant scolaire. Donc, toute la partie du coin ici à là, c'est constitué en ossature bois, même la partie toit. Et ici, donc, dans la partie plutôt cantine, on est sur une partie banchée. Donc, voilà. Sur le toit, on sera végétalisé sur les deux côtés de la pièce centrale. Et je pense avoir fait le tour. Hein. J'espère pas trop avoir dérapé en termes de timing.
Ça va, on était déjà un petit peu à la bourre.
Ouais, donc c'était pas de ma faute.
C'était pas de ta faute. Voilà, merci Gonel pour cette présentation. Je vous invite du coup à solliciter Gwenaël pour vos éventuelles questions. Il y a déjà Dominique Ramard qui pose des petites questions sur le chat. Bois, qualité et entretien, paille, une question de tassement. Est-ce qu'il y aurait une question de tassement dans le temps, j'imagine?
C'est pour ça qu'en termes de densité, il y a des règles à suivre. Et nos bottes de paille n'étaient pas assez denses du fait de la perte d'humidité, ce qui fait qu'il aurait fallu les retravailler, les resserrer un peu plus. Et par rapport à l'entreprise qui était en charge de la paille, de l'ossature bois, ça faisait énormément de travail. Ils préféraient quelque chose de plus normé en termes de profondeur, largeur, hauteur, pour que ça rentre correctement dans les cases. Après, au niveau du bois, on est sur du Douglas. Normalement, c'est un bois qui vieillit plutôt pas mal avec le temps. Alors, je vais regarder les commentaires.
Il y a Dominique Ramard toujours qui dit, peut-on parler d'un bâtiment économe, point d'interrogation, en ressources, en euros?
Alors, en euros, c'est vrai que au niveau du coût au mètre carré, ça peut paraître important. On est sur un bâtiment qui est BBC. Alors après, je voulais vous montrer quelques éléments sur la démarche. Dans la réflexion, on avait trois positionnements possibles au niveau du BBC, en s'orientant sur plus finement sur certains éléments. J'ai pas réussi à vous retrouver ces données-là, et je vous avoue que depuis 2017, j'ai un peu dormi. J'ai pas su faire appel à ma mémoire.
Il y a une autre question de Daniel Lebois qui demande des précisions sur Monsieur Louvel. Est-ce qu'il est vraiment, enfin, est-ce qu'il est architecte et où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il serait intéressé pour un projet de médiathèque en matériaux biosourcés? Je vous invite aussi à prendre la parole. Vous pouvez lever la main, comme je disais tout à l'heure. Vas-y, Gwenaël, pardon.
Je pourrais envoyer les contacts de Louvel. Ils doivent être dans le. Ils sont à Saint-Nazaire. Ils sont à Saint-Nazaire. Pour ceux intéressés, je pourrais envoyer les infos. Luc? Non, avec le micro?
Oui, je veux bien les Daniel Lebois, là, je veux bien les coordonnées de ce monsieur là, oui.
Ouais. Ok.
Ah,
Mon
juste
adresse.
Gwenaël, tu es sûr que ce n'est pas le Louvel de Vitré?
Non, c'est Saint-Nazaire. Hein.
C'est pas celui qui avait fait l'école de Saint-Ganton.
Tu me fous le doute, hein. Mais non, il me semble que c'est Saint-Nazaire.
D'accord,
Mais
ok.
t'as peut-être pas tort, hein. Tu vois, je te
Non,
dis
parce qu'il y a un autre Louvel qui a travaillé la terre, qui a pas mal travaillé sur la terre. Voilà.
tout. Ouais, bah moi, après, ils ont peut-être différentes antennes, hein. Mais
C'est possible
j'ai.
aussi.
Et qui serait localisé où, l'autre Louvel? À Vitré?
Oui, tout à fait, oui.
D'accord. Il y a une
Sinon, je veux
autre.
bien celui de Saint-Nazaire aussi. Si les coordonnées, on peut les avoir dans le mail résumé de Brunet, ça serait pas mal. Merci d'avance. Il y a une autre question sur le chat du coup de François Bienfait de Binic qui demande comment a été monté le marché de travaux pour obtenir le critère de fourniture en bois local. Effectivement, il y a une question de légalité, d'intégrer des critères de localité.
Ouais, alors là, il faudrait remettre le nez dedans. J'ai pas la réponse là comme ça.
Tout cas, c'est une vraie question. Hein. Il y a d'autres questions pour Gwenaël?
Oui, je souhaitais parler de. Vous n'avez pas parlé des récupérations des eaux pluviales et traitement des eaux usées?
C'est une très bonne question. Il me semble que je ne sais pas répondre.
C'est pas grave. Non, mais
D'accord.
ça fera partie des écueils.
Oui, tout à fait. Et ce point-là, sur la récupération des eaux usées et des eaux pluviales, hein, on va amener des réflexions sur un autre bâtiment. Et c'est un des premiers points qu'on s'est dit, hein, qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas se passer de ne plus récupérer les eaux.
Ok. Merci.
Il y a d'autres questions-réponses sur le chat où il y a Loïc Boinet de Quessoy qui demande si vous, enfin, vous parlez de densité et de taux d'humidité, mais y a-t-il une qualité de paille recommandée? Et il y a Lucie de Lemenay qui dit il y a le collectif Paille Armoricain pour vous accompagner sur vos projets, filière professionnelle et qui fédère les professionnels. Peut-être du coup revenir sur cette première question. Est-ce qu'il y a une qualité de paille recommandée, Gwenaëlle?
Sur la qualité, pour avoir été avec le bureau de contrôle lors de la réforme des bottes, c'était plus en termes d'humidité qui regardait en termes de densité plutôt et en termes de cordage utilisé pour faire les ballots. Après, sur la paille, alors on n'était pas sur une paille bio. Mais après, non, je n'ai pas souvenir qu'il y ait une qualité. Bon, après, c'est clair qu'il ne faut pas de la miette de paille. Hein.
Je vais juste me permettre de compléter là. En fait, c'est régi par les règles professionnelles de la construction paille qui ont été publiées en janvier 2012 à l'échelle nationale, qui est un guide hein, qu'on peut acheter ou qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, effectivement, il y a des questions de taille de botte, de densité de botte, d'humidité dans la botte. Et c'est ça qui est susceptible de contrôler le bureau de contrôle, de vérifier le bureau de contrôle en termes de conformité. Et je confirme aussi que l'idée de se faire accompagner par le réseau français de la construction paille, c'est-à-dire le collectif paille armoricain pour les gens de l'Ouest, est une bonne idée auquel beaucoup de communes ont fait appel.
Après, je pourrais envoyer aussi les coordonnées de la personne qui nous accompagne sur la paille et de mon conseil. Je te les fournirai, Guillaume.
Ok, merci. Alors, on va prendre une dernière question. Je crois qu'il y a Daniel Lebois qui a levé la main et après, on passera au deuxième témoignage parce que le temps passe.
C'est de la paille blé, hein, pour info.
C'était pas une question, en fait, c'était uniquement pour indiquer la société Scott à Breteuil fait des bottes en paille pour les murs de construction et nous avons une maison senior qui est en cours de construction avec ses murs en bottes de paille. Mais par SCOB à
C'est
Breteuil,
bah,
dans les
avec eux qu'on
Yvelines.
travaille. Hein.
Pardon?
C'est avec la SCOB qu'on travaille aussi.
Oui, c'est ça, ben voilà.
Là, je vois une question sur les subventions rapidement. On est à 800 000, 811 000 euros de subventions. Conseil départemental, la DETR, la région et la CAF hein, qui a participé elle aussi.
Ok. Eh ben, merci Gwenaël pour ton témoignage et ses réponses. On va passer au deuxième témoignage de Jean-Paul Ouvichard sur la commune de Layet.
Je reste disponible, hein, si vous avez des questions par mail, hein, on mettra mon mail.
Michael, je te nomme animateur et tu. Ok. Tu l'es. Et ton micro est
Merci. Donc,
coupé.
Jean-Paul, on va passer à toi. Du coup, je vais passer ton diaporama. Enfin, tu me diras un peu comment avancer les diapos sur lesquelles tu veux t'arrêter, comme convenu.
Ok, ça marche, tout le monde m'entend. Donc Jean-Paul Vuchard, je suis adjoint au maire donc à la commune de Layet, donc pour la partie développement durable et agriculture. Et donc là, il s'agit d'un projet qu'on a mené au cours du mandat précédent. Donc il est possible qu'il y ait certains points que je ne me souvienne pas forcément. Si tu peux partager la première
Ouais.
diapo. Alors pour situer quand même Layet, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est situé au sud de Rennes, quelque part direction Nantes. C'est quelque part la première colline qu'on arrive en sortant en sortant en fait sur la route nationale, en sortant du bassin de Rennes, donc à une quinzaine de kilomètres de Rennes. Voilà. Et la commune fait un peu plus de 5 000 habitants. Donc, il s'agissait en fait le projet en fait porte sur l'amélioration de performance énergétique du groupe scolaire qui englobe le centre de loisirs. Donc, comment ça se situe et quelque part comment est organisé ce complexe? En fait, ben, on voit quelque part l'histoire récente de la commune, c'est-à-dire que on a une succession de bâtiments qui sont accolés les uns aux autres qui portent l'histoire de l'école, en fait. Donc, avec un premier groupe qu'on voit en rouge, qui consiste, en fait, à ce qu'on appelle l'ancien bâtiment dans lequel, en fait, il y a actuellement l'école primaire, voilà. Et donc ça, c'était au départ, c'était toute l'école était là, quoi. Il y a aussi, en fait, adossé en vert, en bas, tout en bas, l'ancienne mairie qui était là, quoi. Et puis, donc, la commune grossissant, on a eu besoin d'agrandir. et puis de faire une école maternelle donc en bleu au-dessus. Donc c'est le bâtiment qui a été construit ensuite dans les années, à la fin des années 80. Ensuite, on a à la fois fait un centre de loisirs en même temps, quasiment, un centre de loisirs donc tout à fait au nord, le CLSH ici, et puis agrandi la primaire pour faire de nouvelles classes. Donc c'est le primaire, nouveau bâtiment. Donc quelque part, ce qu'il faut se dire, c'est que les performances énergétiques, elles sont un petit peu dans l'ordre inverse, les derniers bâtiments étant les plus économes. Voilà pour le cadre général. Alors, ce qui frappe, c'est encore une chose sur ce schéma. Ce qu'on voit aussi, c'est que bah, ça mobilise beaucoup d'espace. Pour donner un chiffre, hein, la surface utile de bâtiment, c'est un peu plus de 3200 m2. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de parois, j'allais dire, beaucoup de murs, et donc, quelque part, des impacts sur les coûts d'isolation de ces murs. Voilà pour le contexte. Donc, là, toujours dans le contexte, c'est quelque part ce qui nous a quand même beaucoup aidé. Donc, on a rejoint en fait Rennes Métropole en 2012 et on a adhéré à l'Agence locale d'énergie et climat du pays de Rennes. Et dans ce cadre-là, en fait, on a bénéficié de ce qu'on appelle un conseil en énergie partagée qui nous permet d'avoir un diagnostic, enfin, un bilan énergétique du patrimoine communal tous les ans. Et quand on regarde ce bilan énergétique, donc c'est la slide suivante, ce qu'on observe sur le schéma du bas, on va toujours tout de suite aller là, ce qu'on observe, mais c'est le cas dans beaucoup de communes, alors, si on peut, on va d'abord aller sur celui du bas, quitte à remonter après dans cette vidéo. Celui du bas, ouais. Le point rouge, en fait, c'est le point ici, en bas, ouais. En bas de, le point rouge, c'est le groupe scolaire CSH, c'est clairement les bâtiments qui consomment le plus dans le patrimoine communal. C'est pas les moins performants. Les moins performants, c'était, alors la cantine, c'est un petit peu à part parce qu'il y a beaucoup d'équipements électriques et forcément ça consomme. Mais c'est plutôt la mairie et la crèche, en fait, qui consomment rapporté au mètre carré. Après, on a décidé de porter notre effort, en fait, sur le groupe scolaire, le CSH, pour deux raisons. Parce que, certes, au mètre carré, ils sont moins énergivores. Pour autant, il y a beaucoup de surface et donc, l'un dans l'autre, les gains qu'on peut espérer sont importants. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, en fait, c'est que c'est le bâtiment, on va dire, qui porte enfin, tout ce qui est scolaire. Donc, c'est les messages aussi aux enfants et aux parents des enfants. Et pour nous, c'est important d'adresser en fait, ce public-là. Donc voilà, si on regarde le schéma qui est un petit peu au-dessus, ce qu'on voit, c'est que l'essentiel des consommations, mais on le verra plus tard, c'est ici. Donc on retrouve en fait le bâton là, du groupe scolaire avec des consommations gaz qui sont importantes, suivies par les consommations électriques. Voilà, on peut peut-être aller directement ensuite plus bas. Ah oui, à Cajoule. Donc pour, enfin suite à ce constat, c'est vrai qu'avoir un conseil en énergie partagée, ça permet d'avoir en fait un bilan tous les ans. Le risque en fait de ce bilan, c'est de rien en faire. Et parce que première année, on a le bilan, deuxième année, on a le bilan à peu près le même avec des évolutions, parce que des évolutions du coût de l'énergie et des consommations en fonction du climat. Il y a un moment où on se dit quelle action on peut avoir, sachant que bah, quelque part l'équipe municipale en fait c'était enfin s'engageait et puis on avait signé en fait on le signé en 2015 la charte des maires pour le climat et donc l'idée c'est comment on peut faire en sorte pour qu'en 2020 on consomme moins qu'en 2014. Et donc, pour ça, et sur conseil de l'ALEC, on a fait faire un diagnostic énergétique fin. Et donc, et pour cadrer ce diagnostic énergétique, on a fait un cahier de charge qui est téléchargeable sur le site de Brudel, qui permet en fait de cadrer, de répondre à notre attente. Alors, notre attente, c'était quoi? Notre attente, c'était de disposer à la fin du diagnostic de trois scénarios qui nous permettent un premier scénario pour avoir quelque part ce qui est réglementaire et donc d'avoir des actions au moins un minimum pour améliorer les choses. Un deuxième scénario qui était typé BBBC Renault et puis un scénario qui permettait de gagner un facteur 4 sur l'ensemble des consommations d'énergie. Donc, sachant que le diagnostic portait sur l'ensemble de ce qui, enfin, à la fois de ce qui amenait des coûts de fonctionnement, quoi. Et donc ça, c'était le cadre. Et puis, on voulait aussi avoir, ça, tout ça, c'était dans le cahier des charges, en fait, action par action, ce qu'on pouvait en attendre, et puis quelque part, le retour un peu sur investissement de chacune des actions. Donc, suite à ce diagnostic, en fait, on a eu des choses assez précises et assez intéressantes. Et donc, là, on a quelques figures qui parlent. Et quelque part, bâtiment par bâtiment, avec, par exemple, pour l'ancien bâtiment de la primaire, tu as sauté des slides, on l'a pour chacun des bâtiments. Et je crois qu'on va gagner un petit peu de temps. En fait, le renouvellement, l'air neuf, on a deux choses importantes sur l'ancien bâtiment de la primaire. Alors, l'ancien bâtiment de la primaire, on l'a vu, c'est le premier, donc c'est celui qui consomme le plus d'énergie. Donc, le renouvellement de l'air neuf qui est autour de 40% et à part quasiment égale les ouvrants qui sont également enfin, à presque 40%. Donc, ça, c'est un point important. Ce qu'on aurait pu voir, c'est que pour la maternelle, c'est pareil. En fait, c'est essentiellement l'air neuf en fait, qui est le point important et pour le CLSH aussi. Donc, on n'y pense pas toujours, mais la façon dont on ventile les locaux sont un point important. En fait, puisque c'est aussi ventilé, c'est aussi quelque part remplacer de l'air chaud. Alors, si c'est pas une si, pour une VMC simple flux, hein, de l'air chaud par de l'air froid, et ce qui forcément est assez négatif en termes énergétiques. Voilà ce qu'on peut en dire sur ces slides-là. Peut-être. Donc là, quelque part, un camembert avec la facture énergétique. Ce qu'on voit, donc, c'est le gaz qui est le plus important dans la facture énergétique, suivi de l'électricité. Sachant que l'électricité, c'est essentiellement l'éclairage et puis le fonctionnement des VMC. Et puis également, si, pas seulement l'éclairage des VMC, mais également l'eau chaude sanitaire. Et parfois, on l'oublie. Slide suivante, peut-être. Merci. Donc là, bon, les consommations de gaz. Oui, c'est ça. Donc, avec le primaire ancien, donc, qui est vraiment le gros bâton rouge foncé, suivi par les maternelles et les bâtiments les plus récents, qui sont forcément les plus économes.
Ça peut-être rapidement sur celle-là, tu me dis, hein, Jean-Paul, hein, c'était plus pour montrer un peu en quoi consistaient les diagnostics, qu'ils avaient été assez précis.
Oui.
Tu veux passer aux solutions peut-être, hein, qui ont été
Je vais peut-être
préconisées?
passer aux solutions, quitte à rentrer dans le détail des solutions, parce que là, je vais aller assez vite.
Ça fait 10 minutes.
Ça fait 10 minutes, ouais, 5 minutes, c'est bon. Les solutions. Donc là, on avait dit, on voulait avoir le détail des actions avec ce qu'on pouvait en attendre derrière. Donc, le détail des actions, c'est ça. Et donc, on a sa part de l'optimisation des contrats. Là, c'est juste du financier. Et donc, ça, c'est des choses qui ont été faites, mais dans une certaine mesure, parce en fait, on est auprès de la partie électrique, on a souscrit un abonnement auprès d'Enercoop. Ensuite, la partie enveloppe, et là on voit que les taux de retour en fait sont enfin, nécessitent beaucoup de temps en fait, pour être amortis, et ça fait écho à la présentation là, que vous avez vue en fait, de la façon dont ont été distribués les bâtiments, puisqu'on est autour de 50 ans, sauf pour la partie remplacement menuisier-bois, simple vitrage, qui a été enfin, action qui a été choisie. Donc si on va. La slide suivante, alors on a parti, c'est vraiment toutes les solutions, c'est pas simplement l'isolation, mais c'est aussi le remplacement de chauffage. Alors, dans ce tableau figure quelque chose qui n'est pas du domaine du chauffage, mais bien de l'isolation, qui est l'abaissement de la hauteur des sous-plafonds, chose qui a été faite. Et puis la partie chauffage, alors ça ne fait pas l'objet quelque part de la présentation de ce jour, mais c'est vrai que derrière, ça déclenche une action sur cette partie-là, puisque au bout du compte, on a fini de le réaliser l'année dernière, on a créer un réseau de chaleur bois en fait, qui alimente maintenant le groupe scolaire, le CLSH, le restaurant scolaire et puis un centre et une médiathèque en fait juste à côté. Donc après en fait on a la partie renouvellement d'air. On a vu tout à l'heure que c'était un point qui était important. Et donc, avec différentes actions possibles sur ce renouvellement d'air. voilà, plus ou moins coûteuse. Ensuite, l'éclairage. On sait que dans la partie électrique, c'est un point qui est important. Donc, l'éclairage, ça fait aussi partie des actions qui ont été retenues. L'eau chaude sanitaire, en fait, parce qu'en fait, quelque part, on a distribué des ballons au fur et à mesure qu'on agrandissait les bâtiments. Donc, forcément, ça donne pas toujours, enfin, ça a des impacts en termes de consommation. Et puis, dernièrement, alors, on n'avait pas oublié le photovoltaïque, mais on n'a pas forcément été brillant là-dessus, parce que de toute façon, pour l'instant, on ne l'a pas réalisé, mais ça fait bien partie des choses qui ont été évaluées dans le cadre du diagnostic. Voilà sur l'ensemble des actions. Maintenant, les scénarios. Donc, je vous avais parlé d'un premier scénario réglementaire, qui est le scénario 1, avec des coûts d'investissement qui restent assez, dire, pas trop élevés, de l'ordre de 94 000 euros. Un scénario 2, donc, qui est le scénario BBC. Qui est déjà nettement plus conséquent, puisqu'on est à quasiment 500 000 euros, hein, ce qui est important pour de la rénovation. Voilà. Et puis, donc, le scénario facteur 4, qui coûte 1,4 million, donc très coûteux. Et puis, un scénario un peu alternatif, orienté à énergie renouvelable. Donc, voilà. Donc, suite à ce diagnostic, ouais, on a aussi donc des scénarios d'évolution du coût global, en fait, en fonction de l'évolution du coût d'énergie des différents scénarios. Donc tout ça a entraîné beaucoup de débats, hein, au sein d'équipe, hein, une équipe. C'est vrai, c'était particulièrement vrai dans le mandat précédent, mais avec des points de vue forcément divers. Et des sensibilités diverses aussi vis-à-vis de ce qui était du développement durable. Et donc, passer à l'action sur des choses où on n'apporte pas de services, en fait, supplémentaires, contrairement à, je sais pas, une nouvelle salle de sport ou enfin, des équipements nouveaux, c'est toujours un peu délicat, quoi. Pour autant, finalement, on a fini par tomber d'accord pour mener toutes les actions que l'on pouvait mener et qui ne se placent pas enfin, sur des scénarios d'amortissement qui sont en dessous des 30 ans, quoi. Et donc, et finalement, donc c'est en gros, c'est le scénario 2 avec des petites variantes qui a été menée. Donc, on peut peut-être passer à la slide suivante. Alors oui, pour juste il y a un petit truc accompagnement. Accompagnement, en fait, pour me parce que une fois qu'on a le diagnostic, normalement l'appréciation s'arrête là. Pour nous, c'est important de continuer à être accompagné. C'est aussi enfin, c'est une option, hein, mais qui était importante, c'est quelque part faire un diagnostic. Il faut que le diagnostic il engage un peu, quoi. Et au moins pour le début, le lancement des opérations, des actions. Et donc on a continué à être accompagné par Acajoul pour ces actions-là, et donc pour les premières réunions et les consultations des artisans, des entreprises qui étaient susceptibles d'intervenir. Donc, si on regarde maintenant donc la slide suivante qui doit être la dernière, l'ensemble des travaux réalisés, donc on a le remplacement des luminaires, donc la partie éclairage, qui a été réalisé pour un montant de 37 000 euros, tout ça en 2015. La création des faux plafonds et l'isolation de ces plafonds, en fait, pour un montant de 17 000 euros, quoi, en gros, ça fait un peu plus de 20 000 euros la première année, en 2015. Ensuite, la ventilation, alors, ce qui n'a pas été une mince affaire, parce que, pour deux raisons, parce que pour des raisons techniques, c'est vrai qu'on a eu différentes ventilations qui étaient un peu, c'est-à-dire perdues dans les combles, dont certaines ne fonctionnaient pas très bien. Et on a eu du mal, en fait, à trouver une entreprise qui veuille bien répondre. Et c'est un montant qui est quand même important, quasiment pour 60 000 euros. Et puis ensuite, le changement des menuiseries qui, quelque part, s'est fait en deux phases. La deuxième n'est pas terminée. La première, en fait, dans laquelle on a remplacé toutes les menuiseries à simple vitrage, donc pour un peu plus de 43 000 euros. Donc là, les doubles vitrages les plus anciens qui restent à réaliser, qui auraient dû être, qui étaient dans le budget de cette année, mais qui n'a pas été réalisé pour des raisons de Covid. En fait, on a eu vraiment du mal à trouver, nous, du temps pour le faire et mobiliser des entreprises qui étaient très mobilisées en fait, sur d'autres sujets. Donc, on ne l'a pas fait cet été, sachant que tous ces travaux-là, en fait, on peut vraiment les faire que l'été. Donc, voilà. Donc, ça fait un montant global d'à peu près 200 000 euros. C'est quand même pas négligeable. Après, c'est vrai que les subventions, ben, finalement, pas tellement de subventions. Une subvention qui est quand même assez importante pour la partie diagnostic énergétique. Une subvention qui est, enfin, un montant de subvention qui est faible pour le reste, c'est des travaux. Alors pourquoi c'est faible? Parce que quelque part, c'est lié aux performances en fait obtenues. C'est-à-dire que pour avoir plus de subventions, il aurait fallu être nettement plus ambitieux en termes de performance pour faire mieux que du BNC, quoi. Et derrière, en fait, clairement, ça nous engageait dans des coûts de travaux que l'équipe municipale aurait pas, enfin, clairement, je pense qu'elle aurait, enfin, elle n'aurait pas validé parce qu'on avait aussi, enfin, quelque part, la maîtrise du budget est un art difficile pour l'équipe municipale. Et c'est vrai qu'on a aussi d'autres besoins et c'est vrai que c'est pas simple. Enfin, quelque part, le petit message, c'est que la transition et le gain de facteur 4 que tout le monde souhaite atteindre, il peut se faire que s'il y a vraiment des aides pour le faire. Sinon, ça va être compliqué. Voilà ce que je peux en dire.
Merci Jean-Paul. Du coup, comme pour Gwenaël, on va prendre quelques minutes pour poser des questions sur le projet. Si vous avez des questions, allez-y. Entre-temps, il y a Gwenaël qui a répondu sur Louvel qui est bien vitré. Ses coordonnées sont dans le chat. Je vois pas de questions pour le
Mais
projet de
je m'en
l'AI.
risque une, Jean-Paul. Est-ce que vous avez réussi aujourd'hui un peu à mesurer déjà les effets des travaux qui ont été réalisés en 2015? Est-ce qu'ils vous satisfont?
Oui, enfin, en fait, on a mesuré tout de suite les effets des premiers travaux. Alors, concernant la consommation électrique, en fait, c'est assez simple. C'est vrai qu'en fait, il y a peu de choses. Enfin, en gros, les choses sont bien catégorisé. Et donc déjà d'un bilan du patrimoine à l'autre, on voit la différence de consommation électrique. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième, c'est l'abaissement des sous-plafonds, puisque ça s'est traduit par la nécessité de re-régler en fait tout le chauffage. Et donc on l'a vu à ce niveau-là, quoi, clairement, quoi. Après, on a mené, en fait, on a lancé assez rapidement aussi. La partie rénovation, en fait, de création d'un réseau de chaleur bois. Et donc, on a en fait, enchaîné avec cette partie-là. Du coup, on a beaucoup touché aux choses là, depuis l'année dernière, principalement.
Moi, j'ai une question là, pour les remplacements, enfin, c'est un remplacement de la VMC, hein, si je ne me trompe pas, parce que j'ai peut-être un peu.
Oui.
Est-ce que, pareil, il y a eu l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, peut-être avec des essais qui ont été faits dans les écoles, les fameux essais réglementaires, est-ce que c'est visible ou pas?
On a fait des mesures, justement. On a fait des mesures de qualité de l'air dans les écoles. Il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, l'année, enfin récemment. Et donc, on a constaté que c'était conforme. Après, je n'ai pas la comparaison au sens où on ne l'avait pas fait précédemment. Donc, le avant-après, on ne l'a pas vraiment, quoi. On peut dire que c'est mieux. En tout cas, c'est conforme. Mais ça manque un petit peu. Et comme. Oui, c'est ça.
Il y a Dominique Ramard de Saint-Juvin qui pose une question sur le chat. Comment peut-on être accompagné en termes d'aide à la décision entre un scénario d'amélioration et un scénario de restructuration? Il pose la question du rapport coût-bénéfice. Donc, je crois que ça a été.
Bah, c'est vrai que ça fait clairement partie des questions, parce qu'il y a un moment où on se dit, bah, les coûts, finalement, je referai une école, ça me coûterait moins cher. Quoi. Enfin, c'est aussi, enfin, quelque part, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le scénario divisé par 4, hein, parce que quand on commence à dépasser le million, ça devient plus trop raisonnable. Quoi. Donc, on a eu un accompagnement, en fait, de l'Agence locale énergie et climat. Après, sur la partie, ça s'est plus passé quelque part entre élus qu'un réel accompagnement, en fait, entre les deux scénarios. Après, on a, enfin, dans le cabinet qui a réalisé le diagnostic énergétique, en fait, on a eu beaucoup d'échanges avec eux aussi. Et clairement, il convenait aussi qu'à partir d'un certain moment, en fait, la question du renforcement, enfin, de la réalisation de l'ensemble des actions se posait vis-à-vis de la durée des bâtiments. C'est difficile de se projeter à 2050, mais est-ce qu'on refera pas complètement le groupe scolaire d'ici 2050? Bon, ce sera à voir.
Si je peux.
Oui.
Les communes doivent engager des démarches d'amélioration énergétique. C'est indiqué, c'est souhaité par le gouvernement. Par contre, sur ce diagnostic-là, je trouve un peu la démarche compliquée quand la démarche énergétique est déjà a déjà débuté. Hein. Faire un diagnostic. Moi, je vois à la Grégonnet, on a un réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur, on ne l'aurait pas, on aurait peut-être un diagnostic dégueulasse. Si on le fait aujourd'hui avec le réseau de chaleur, bah, derrière, l'interprétation des chiffres peut être un peu biaisée. D'où, je pense, l'importance d'être accompagné dans la lecture de ces résultats.
Enfin, je souscris complètement à ce que tu dis. Enfin, moi, je me pose pas mal de questions sur le décret là, qui est tombé, il me semble, c'est cet été, dans le cadre de la loi Elan, en fait, sur l'amélioration de performance. Je ne sais pas s'il est finalisé ou pas, mais sur l'amélioration de performance énergétique des bâtiments de plus de 1000 m², sur lequel il faudrait gagner un facteur 4. Quoi. Et enfin, je vois pas. Enfin, au-delà de quelque part de l'incantation, c'est très bien. Sur les bâtiments qui ont comme source des énergies renouvelables, je me demande si c'est vraiment la priorité. Et puis, le troisième volet, c'est le comment. C'est-à-dire que pour faire ça, ça a des coûts qui sont considérables, qui a l'accompagnement pour les communes.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Paul Vuchard? Alors, je ne vois pas de main levée ou de questions dans le chat. De toute manière, après l'intervention de Mickaël, on refera des échanges. Je vais te passer la main, Mickaël.
OK. L'écran. Voilà, bon, il m'appartient donc d'essayer de synthétiser les principaux enseignements qui sont issus des retours d'expérience des collectivités adhérentes, qu'elles soient communes ou intercommunalités. Et donc, c'est l'objet de ce diaporama. Forcément, on ne va pas tout voir parce qu'au vu de tout ce qu'on a pu observer dans vos communes et intercommunalités, que ce soit en construction ou en rénovation, il y a eu énormément d'enseignements qui sont apparus, qui sont quelque part édités dans le document sur les 22 retours d'expérience qui va vous être mis dans le chat et puis qui sera rappelé dans ce diaporama. Voilà, mon propos, il va tenir en deux parties. Une petite partie où je vais vous évoquer des points préalables, on va dire. Et puis, une deuxième partie où je vais faire un focus sur sept points d'attention qui ont été révélés dans un grand nombre de projets et qu'on souhaitait vous témoigner pour que les erreurs des uns ou les difficultés des uns puissent permettre aux autres d'avancer plus facilement. Alors, sur les points préalables, le premier, c'est que mine de rien, lorsque des élus souhaitent mener un projet de construction ou de rénovation durable, ça peut apparaître un petit peu comme la quadrature du cercle, puisqu'il faut tout à la fois répondre à un très grand nombre d'objectifs. On sait qu'aujourd'hui, nos enjeux sont nombreux. Ça passe de l'économie de foncier à la question des mobilités, comment accéder à pied, à vélo, garer peut-être des trottinettes ou des skateboards, les questions d'eau, les questions de santé, de biodiversité, de paysage, patrimoine, de favoriser l'emploi local, jusqu'à l'entretien et la maintenance du bâtiment. Le tout sans renchérir le projet. Donc, on en a parlé dans les deux expériences précédentes. On a un budget qui est limité et qu'on ne veut pas dépasser. Et puis, parfois, avec peu, voire pas du tout d'ingénierie en interne pour des très petites communes. Voilà. Et si on pouvait résumer la démarche qui ressort pour arriver à faire tout ça, eh bien, c'est l'idée de mener une démarche systémique, c'est-à-dire d'avoir une approche très globale, de mettre l'ensemble des enjeux dans le projet, sans faire de tri au départ, on va dire. Pour ne pas renchérir le projet, c'est l'idée de prendre du temps dans les phases préalables, lors de la définition du programme, puis en phase conception avec la maîtrise d'œuvre de conception, pour imaginer des solutions qui seront les plus économes possibles, et puis de compenser votre manque d'ingénierie par l'implication de partenaires, la visite de réalisation et la rencontre d'échanges avec d'autres élus comme on le fait aujourd'hui. Deuxième petit point qui nous est souvent, sur lequel on est souvent questionné, c'est la question de la chronologie d'un projet. Sans entrer dans les détails, un projet, c'est souvent 2 ans et demi minimum entre les premières idées qui émanent du conseil municipal et puis la livraison des travaux. On pourrait dire qu'on pourrait avoir à peu près 6 mois d'études préalables et de réalisation du programme, puis 1 an de conception avec la maîtrise d'œuvre qui serait recrutée, puis 1 an de travaux. C'est extrêmement schématique, ça peut être plus long que ça, mais disons que ce serait plutôt une durée assez minimum. Je ne vais pas commenter cette diapo-là, mais vous l'aurez dans le retour qu'on vous fait. Ça, c'est le retour que nous a fait de manière très précise l'extension rénovation d'un ancien atelier, on va dire, d'une ancienne grange, qui a été transformée en salle multifonction, salle culturelle à Cargriste, c'est-à-dire à la fois une rénovation et une extension. Et là, s'entraîner, le projet, il a duré à peu près 3 ans et demi. Dans les points préalables aussi, j'aurais tendance à dire de tout de suite penser, lorsque vous lancez un projet, sur les partenaires qui peuvent vous accompagner. Vous êtes la plupart adhérents de Brued'aide. Brued'aide n'est pas un réseau technique à part entière. On n'a pas de thermiciens, on n'a pas d'urbanistes dans l'équipe. Nous sommes des animateurs de réseau qui mettons en relation des élus qu'on fait et des élus qui veulent faire et qui capitalisons les expériences. Et donc, on vous invite très fortement. Et la plupart des communes adhérentes à Brued'aide sont également adhérentes au CAUE qui vont plutôt avoir une démarche d'urbanisme, de paysage, d'environnement et notamment dans les étapes préalables. Elles peuvent vous accompagner jusqu'à la rédaction du cahier des charges. À noter qu'il n'y a pas de CAUE en Ille-et-Vilaine, mais il y a des agences départementales avec un service CAU. Donc là, il faut plutôt vous tourner vers les agences départementales pour les Brétiliens. Et puis, vous tournez vers les agences locales de l'énergie et du climat. Là où, et pour les deux, très en amont du projet, de façon à notamment qu'ils puissent apporter un regard sur votre cahier des charges. Alors, c'est les deux grands partenaires que j'ai intégrés à cette diapo-là. Il y en a bien d'autres. On a cité le collectif Paille Armoricain. Il existe aussi un collectif des terreux armoricains. On a Abibois, qui est l'interprofession sur le bois. On peut se retourner vers la Chambre des artisans, la CAPEB, la FFB, des fois, si on veut avoir des retours techniques sur lesquels on se posera des questions. Bon, il y a un grand nombre de partenaires que vous retrouverez dans le guide que nous avons publié. Un petit point aussi quand même pour bien différencier 2 types de constructions que vous pouvez souhaiter mener et qu'on va appeler de construction de technique courante et de technique non courante. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques, mais simplement, il est important que vous soyez alerté sur ces questions-là. On va considérer comme des techniques courantes ou un bâtiment en construction courant, un bâtiment dont la mise en œuvre, c'est-à-dire les techniques de mise en œuvre sont codifiées à l'échelle nationale par exemple par des DTU, je pense que vous avez certainement dû entendre parler des DTU, ou ça peut être par des règles professionnelles. J'ai parlé tout à l'heure et c'est ce qu'a fait la Grigonnet. Vous avez suivi les règles professionnelles de la construction paille. Donc, ça vient cadrer la construction en ossature bois, remplissage de bottes de paille. Et puis, il y a des règles qui sont plutôt du savoir-faire traditionnel. Faire un bâtiment en paille mur porteur, comme vous avez la photo sous les yeux, ça, ce n'est pas cadré spécifiquement par la réglementation ou par des règles professionnelles ou des DTU. Faire un mur en terre porteur n'est pas non plus aujourd'hui… on sait le faire, ça marche, ça fonctionne bien, mais ça fait plutôt affaire à un savoir-faire traditionnel par des règles qui ont été validées à l'échelle nationale. Et de la même manière qu'on a des techniques de mise en œuvre et de pose, on va dire, eh bien, on a aussi des matériaux qui sont standards, et on a beaucoup de matériaux biosourcés qui sont standards, un panneau de laine de bois compressé, c'est standard. Gwenaëlle tout à l'heure a parlé de dalles, alors j'ai oublié le nom, mais moi je les connais sous un autre nom, mais peu importe, ce sont sans doute des marques commerciales, Fibralite ou Fibra Futura, le remplissage en ouate de cellulose, le métis qui est des isolants en tissu recyclé apportés dans les bornes Le Relais. Tout ça sont des matériaux biosourcés ou géosourcés industrialisés, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une taille définie, une épaisseur définie, ils ont un calibrage, une qualité isolante qui est standard, quel que soit le matériau qu'on l'achète à Rennes, à Brest ou à Nantes. Par ailleurs, il existe des matériaux non industrialisés, de la terre récoltée sur place, un bois, une poutre qui viendrait d'un arbre qu'on aurait prélevé sur la commune, etc. Une botte de paille n'est pas standard, elle peut avoir des tailles, des densités, etc. différentes. Et donc, c'est important de bien qualifier ces deux points-là parce que selon le type de bâtiment que vous allez voir faire, eh bien, ça peut amener à des points d'attention différents et notamment des points d'attention que je vais évoquer là maintenant. Je vais vous évoquer 7 points d'attention qui vont des études de préalable jusqu'à des questions de un peu plus techniques d'isolant biosourcé. Le premier point concerne les études préalables. On s'est aperçu que plusieurs fois, des collectivités ont commencé à se lancer dans le recrutement d'une maîtrise d'œuvre pour un projet, alors même qu'il aurait été sans doute judicieux qu'elles mènent des études préalables. Alors, cette étude préalable, ça peut être par exemple une étude de performance thermique ou énergétique, comme a pu le faire l'AIE, avant de lancer les travaux. Mais ça peut être aussi, par exemple, une étude d'opportunité entre rénover un bâtiment existant ou créer un bâtiment neuf. On peut lancer une étude de ce type-là qui peut être assez simple et qui comporterait des critères de quelle serait la localisation la meilleure, est-ce qu'on y accède facilement, quel serait le projet qui répondrait le mieux aux enjeux de développement durable, un comparatif des coûts entre construire ou rénover. Tout simplement une étude de faisabilité, on se dit peut-être, bon, a priori mon choix est déjà porté sur le fait de rénover un bâtiment, pour autant, est-ce qu'il est facile de faire un tiers-lieu médiathèque dans un ancien presbytère? Et donc là, on pourrait avoir une étude de faisabilité sur ce que la manière dont s'est répartis les espaces, etc., permettrait d'en faire une médiathèque. Et un point qui nous a été très souvent soulevé, et on est dans le cas de deux communes qui ont des réseaux de chaleur, Bois, l'Aillé et la Grigonnet, mais il est arrivé à plusieurs reprises que des communes se lancent dans un projet, recrutent une maîtrise d'œuvre de conception, au moment de cette conception se pose la question du chauffage et donc potentiellement d'une chaudière bois, et à ce moment-là on se dit pour que cette chaudière bois soit performante, ça aurait été bien de la mutualiser avec des bâtiments voisins. Sauf que le bureau d'études n'a pas été recruté pour ça et que les cahiers des charges de l'étude n'a pas intégré l'idée d'avoir une réflexion à l'échelle de plusieurs bâtiments. Et pour cette raison-là, ça a pu arriver que des collectivités fassent machine arrière. Même si on est dans cette situation-là, on peut encore s'en sortir, mais il serait plutôt judicieux d'étudier le réseau de chaleur avant. Le deuxième point d'attention sur lequel je voulais insister, j'ai l'habitude de dire que c'est 50% de la réussite d'un projet, c'est la manière dont on définit le programme. Un programme qui est bien défini, c'est un programme dont on a parfaitement défini les besoins et les usages en termes de surface, de rangement, de liaison. un programme dont on a bien écrit les ambitions en termes de démarche de développement durable et un programme sur lequel on a défini un budget cohérent. Et ces trois éléments-là, ils peuvent être faits soit avec un programmiste, c'est ce qu'a fait l'Agrigonet, soit on peut le faire soi-même en régie avec les services, voilà, en réalisant des ateliers de travail avec les habitants, des questionnaires, enfin, ou les futurs usagers, et en impliquant des partenaires, et notamment les partenaires que j'ai cités préalablement, plus Bruded. Le troisième point, c'est la question du bureau de contrôle avec un point d'attention. Le bureau de contrôle, c'est un bureau qui est obligatoirement recruté par la maîtrise d'ouvrage et qui est une mission indépendante qui a pour objectif de garantir la solidité de l'ouvrage et la sécurité de l'ouvrage notamment. Lorsqu'on a la volonté de construire avec des techniques non courantes, par exemple avec un mur en terre porteur, il va appartenir à la maîtrise d'œuvre de conception, l'architecte, le bureau d'études structure, le bureau d'études thermiques, etc., d'apporter au bureau de contrôle les garanties qu'on peut prouver que le bâtiment est bien solide et qu'il est bien sûr, notamment sur la résistance au feu. Et donc, ça veut dire qu'il faut que la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que la collectivité, inclue dans son cahier des charges de recrutement de ce bureau de contrôle cette mission un peu plus précise pour bien étudier les pièces qui vont être apportées par la maîtrise d'œuvre de conception. On insiste beaucoup là-dessus parce qu'il peut arriver que des fois des bureaux de contrôle qui ont été recrutés un petit peu sur un cahier des charges un peu classique disent écoutez, moi, vous ne m'avez pas payé quelque part le temps pour m'impliquer dans le projet et pour analyser les pièces qui sortent des DTU et des règles professionnelles. Et donc, ils peuvent arriver qu'ils émettent des avis défavorables pour ça. Donc, si on avait un conseil à donner, c'est d'impliquer le bureau de contrôle dès en amont du projet et a fortiori lorsqu'on est sur des projets avec des matériaux locaux et des techniques de construction traditionnelles. Le quatrième point, c'est la question du recrutement de la maîtrise d'œuvre qui va vous accompagner. J'ai insisté beaucoup sur la question du programme, mais il faut évidemment trouver la bonne maîtrise d'œuvre, voilà, c'est-à-dire une bonne composition avec des compétences qui correspondent à votre demande. Et ce qui ressort beaucoup des échanges qu'on a eus avec les collectivités adhérentes, c'est que pour elles, ça apparaît comme une erreur de recruter ces maîtrises d'œuvre de conception en mettant le prix comme un élément primordial. Il faut plutôt mettre à leurs yeux comme élément primordial les compétences, les démarches en matière de développement durable, les délais, etc., etc., et de mettre le prix comme un élément moins important. Le coût d'une maîtrise d'œuvre de conception, c'est entre, bon an, mal an, 8 à 12% du coût global d'une construction ou d'une rénovation. Et l'idée, ce serait plutôt de ne pas mettre l'économie là pour laisser le temps d'avoir une maîtrise d'œuvre vraiment à s'impliquer dans le projet et de bien étudier le projet avant de passer dans les aspects constructifs. Un point qui est régulièrement dit, et voilà, c'est de dire, bon, mais si je fais un projet biosourcé, très volontariste en matière de développement durable, eh bien, ça va coûter plus cher. Les retours d'expérience des collectivités adhérentes de Bruded montrent que ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors évidemment, si on compare une laine de bois avec une laine de verre, la laine de verre coûte moins cher. Néanmoins, ce qu'on pourrait déjà dire que ça n'a pas les mêmes propriétés physiques, de santé, d'acoustique, etc., pas la même empreinte écologique et pas la même dynamique territoriale. Bon, n'empêche que si vous avez votre porte-monnaie, c'est votre porte-monnaie et il n'est pas extensible. Donc, on peut bien comprendre que, il peut être compliqué d'aller vers un bâtiment qui coûterait plus cher à l'investissement, même si à l'usage et à la maintenance, il coûterait moins cher. Ce qui ressort des expériences, c'est qu'on peut faire de très grosses économies, notamment sur la question des aménagements extérieurs, avec un S, et par exemple en utilisant des parkings déjà existants plutôt que d'aller en créer de nouveaux, par exemple en évitant de bitumer fortement ces parkings, Et en créant peut-être, on a vu des collectivités qui ont fait des parkings en terre pierre, par exemple. Tiens, je crois qu'il y en a un à Laillé, près de la salle culturelle. Par exemple, en discutant bien sur la forme des bâtiments, vous avez vu les bâtiments de Laillé de l'école où Jean-Paul a montré que tous ces décrochés, tous ces excentricités, bon, sans doute ont dû coûter un peu cher à la construction, mais elles complexifient en plus la rénovation. Il faut donc plutôt aller vers des formes moins alambiqué pour faire des économies lors de la construction. Et puis, on peut se poser des questions, et il faut s'en poser absolument. Les architectes ont des compétences, mais ils ne sont, comment dire, ce ne seront pas eux les utilisateurs du projet. Il est extrêmement important de discuter les mètres carrés, les couloirs, les portes en trop. Plusieurs communes ont décidé, par exemple, de faire des coursives extérieures plutôt que de faire des couloirs tout construits et qui seront non seulement chers à l'investissement, mais qui nécessiteront du chauffage, de l'entretien, de la maintenance, de l'éclairage, etc. Bon, après, on peut trouver d'autres sources d'économie, des fois dans des petites choses, qui permettent, avec l'idée que c'est que d'enlever de l'argent sur certains postes qui sont sans doute moins importants, que vous estimez moins importants, pour aller les mettre dans des enjeux de santé, d'écologie, etc., etc. Un petit point d'attention sur la question des technologies trop pointues. On a plusieurs communes qui nous ont fait des retours en disant qu'elles avaient parfois fait un petit peu des usines à gaz, sans jeu de mots. Je pense par exemple à des retours sur des chauffages par le sol, où beaucoup de mes communes nous ont, notamment sur du neuf, nous ont retourné que ça avait amené de très très grosses difficultés de réglage, voilà, parce qu'on a des bâtiments qui sont orientés plein sud, bien isolés, qui donc bénéficient à plein des apports solaires passifs du soleil, et avec du coup des sortes d'incohérences technologiques, on va dire, entre ces apports de solaire et les chauffages par le sol. Bon, je ne vais pas détailler les exemples de coûts parce que c'est toujours très compliqué de détailler des coûts. Tout à l'heure, Gwenaëlle, tu as indiqué des coûts entre 2 900 euros hors taxes du mètre carré, mais finalement, on s'aperçoit que c'est énormément dû à la structure béton qui est en dessous de votre bâti en ossature bois-paille. Ouais. Et que si on prend que celui-là, ça rapporte à 1 600 euros, si j'ai bien compris, hors taxes du mètre carré. Donc, il est toujours compliqué de comparer ces coûts. Néanmoins, je voulais souligner par exemple un coût qui a été assez extraordinaire, qui est celui de l'école de Bouvron, où en coût constructif pour un bâtiment qui est construit un petit peu comme un hangar métallique, sous lequel on n'a fait que des murs en terre de très grosse épaisseur. Donc, tous les murs et toutes les cloisons sont en terre et on est à 1070 euros hors taxe. Ou par exemple, l'école de Saint-Ganton, équipe de Louvelle vitréenne. Briques monomures, ouate de cellulose, chaudière bois, cloison intérieure en briques de terre crue, et on était à 1388 euros hors taxes du mètre carré. Donc on peut tout à fait atteindre de très belles performances environnementales, sanitaires, etc., d'usage et de qualité, je dirais, visuelle, sans dépenser plus. Un petit mot sur la rénovation. On est souvent dans des projets à l'économie de projets plus compliqués parce que, évidemment, on est obligé de prendre en compte l'existant. On a beaucoup moins de marge de manœuvre sur l'agencement des pièces, etc., etc. Ce qui ressort un petit peu des discussions, des capitalisations qu'on a pu faire, des communes, et notamment la commune de Josselin, qui avait fait, à travers une étude de l'établissement public foncier qui avait été confiée à Bruded, et avec l'implication notamment de la CAPEB, l'idée qu'il était intéressant de déshabiller un bâtiment, on appelle ça curer un bâtiment, comme vous le voyez sur la photo de droite, c'est-à-dire d'enlever tout ce qu'on ne va pas utiliser avant de lancer le travail de conception, de façon à ce qu'on n'ait pas de mauvaises surprises en phase travaux. Ça, c'est la première chose. Et de façon aussi, si on ne déshabille pas avant de penser la conception, on risque d'avoir des artisans, des entreprises qui vont surestimer leurs travaux parce qu'ils ne seront pas, en regardant le projet, par où ils vont passer leurs câbles, leurs gaines, etc., leurs tuyaux, et ne sachant pas comment ils vont pouvoir y passer, ils peuvent se dire « Ouh là là, je ne sais pas si mon tuyau, je vais mettre 10 minutes à le passer, ou une heure, ou deux heures. » Et donc, ils vont prendre une marge de manœuvre tout à fait normale de leur part pour assurer ce risque de méconnaissance. Voilà. Donc, plutôt tendance à curer les bâtiments avant. Et puis, sur la rénovation, il y a des règles qui spécifient que si on, comment dire, si on ne touche pas trop à la structure du bâti, c'est-à-dire au mur et au plancher, on peut prétendre à une TVA à 10%, ce qui peut être une économie assez conséquente sur un projet. Dernier élément des points d'attention, la question des isolants biosourcés, c'est-à-dire de tout ce qui est watts, paille, terre, enfin pas oui, watts de cellulose, laine de bois, etc., et notamment en toiture, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, l'Agrigonel l'a fait sur son bâtiment. Simplement, et même en cloison, il faut savoir que les matériaux biosourcés n'ont pas le même classement au feu. Ils sont plus inflammables que la laine de roche ou la laine de verre pour les prendre en exemple. Et donc, ils amènent à une conception qui doit être différente des cloisons, des murs extérieurs ou de la toiture. Et on a vu parfois des architectes proposer à des collectivités de concevoir un bâtiment de manière un peu conventionnelle avec de la laine de verre ou de la laine de roche. Et en disant, on va mettre en option la ouate de cellulose ou de la laine de bois, et si les prix sortent bien, eh bien vous aurez la liberté de choisir cela. En fait, ce n'est pas possible. C'est pas possible pour ces questions de résistance au feu. Allez, en point de synthèse, vous avez là toutes les étapes de déroulé d'un projet. Je ne vais pas toutes les repasser en revue. Peut-être simplement dire que une fois qu'on a recruté une maîtrise d'œuvre de conception, on passe par un dossier de consultation des entreprises qu'il faut relire, même si c'est un document qui est très épais avec les différentes descriptions des lots. Il faut les relire parce qu'on a vu dans ces dossiers de consultation des entreprises parfois une commune qui souhaite du bois local alors que dans le DCE est préconisé du bois exotique, une commune qui veut faire une attention toute particulière à la qualité de l'air intérieur. Or, il n'y a rien qui est précisé sur la qualité des peintures. Par exemple, et puis il est important de suivre les travaux, d'aller régulièrement sur le chantier, voir comment ça se passe et de ne pas déléguer entièrement ce suivi à des architectes. Pour prendre un exemple, un maire m'avait raconté qu'un vendredi, il visite le chantier et, de rénovation et le projet n'était pas plaqué avec des plaques de placoplâtre. Et puis lundi, en fin de matinée, tout à coup, tout était plaqué. C'est-à-dire qu'on aurait eu en une matinée la possibilité de mettre tout l'isolant plus les plaques de placoplâtre. Il a fait enlever une plaque de placoplâtre et l'isolant n'y était pas. Alors, ça reste certainement très rare comme pratique, mais disons qu'il faut être attentif. Et évidemment, si possible, évaluer pour premièrement s'améliorer soi-même. Et puis, en évaluant, vous pourrez témoigner vos expériences au réseau Brued et permettre à d'autres communes d'avancer. Dernière slide sur la satisfaction des élus. À chaque fois qu'on a des élus qui ont porté ce type de projet, ils nous ont plutôt témoigné d'une réelle satisfaction d'avoir concrétisé la prise en compte d'un ensemble d'objectifs que vous avez sous les yeux. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous aurez sur notre site internet énormément de retours d'expérience de projets, de collectivités, de rénovation ou de construction neuve, et puis un certain nombre de documents de mutualisation, le 22 retours d'expérience, celui sur les chantiers collectifs dans la construction et l'aménagement pour des collectivités qui voudraient impliquer des habitants ou des entreprises d'insertion ou des structures de formation dans leurs projets. Voilà. Merci de votre attention. J'espère avoir été suffisamment synthétique et compréhensible.
Merci, Mickaël. C'était très, très clair. On va prendre la demi-heure qui nous reste pour échanger à la fois sur les témoignages et puis sur la présentation de Mickaël. Je vois que Gwenaëlle lève la main, donc je vais lui accorder la parole. Vas-y, Gwenaëlle.
Oui, je rebondis sur les derniers propos de Mickaël. C'est clair que la présence d'un agent ou d'un élu sur le chantier et régulièrement, ça ne doit pas être une option. En fait, nous, on y est toutes les semaines sur le chantier de l'école. Dans une commune voisine à la nôtre, ils ont aussi travaillé sur un projet d'école où là, l'élu et ou l'agent n'y allaient que très peu. Et au final, il y a énormément de malfaçons. Même quand on ne s'y connaît pas, le fait de montrer qu'on est présent fait que les intervenants sont peut-être un peu plus rigoureux. Hein.
Est-ce qu'il y aurait une autre intervention? J'entends quelqu'un parler.
Dans le chat, on voit une remarque qui est plus une remarque et effectivement un point d'attention qui est soulevé là sur les études préalables. De bien imaginer, a fortiori pour des petites communes, mais aussi pour des communes plus moyennes ou plus grosses, la question de la polyvalence des locaux quoi, qu'on peut intégrer dans un cahier des charges. Ça peut se traduire par. On a vu pas mal de communes qui ont fait par exemple des cloisons amovibles pour pouvoir. Séparer une grande pièce qui peut être pourrait utiliser par exemple pour une pièce de je sais pas de salle de danse et qui peut être séparée ensuite en deux via une cloison amovible pour faire deux ateliers l'un de peinture et l'autre de je sais pas de jeu de bridge par exemple quoi. Voilà, donc effectivement ça nécessite aussi d'être bien réfléchi en amont parce qu'évidemment ce sera des mètres carrés en moins à faire si on a bien travaillé sur la polyvalence et ces discussions préalables au cahier des charges.
Je crois qu'il y avait Loïc Boinet de Quessoy qui avait une question.
Je voulais juste confirmer ce que disait la personne tout à l'heure. Là. Nous, on a des travaux actuellement aussi. Moi, je suis nouvellement élu, donc nouvel adjoint. Je ne connais pas forcément tout dans mes nouvelles attributions. Et on a pas mal de chantiers. Alors, nous, on a pas mal. On a quelques chantiers sur la commune. Et je confirme que d'aller régulièrement sur les chantiers, ne serait-ce que de poser des questions, tout de suite. Les intervenants, les entreprises voient qu'on s'intéresse. Et moi, pour y être régulièrement, en plus des réunions de chantier qui sont programmées toutes les semaines, j'y passe et je trouve que ça, sans mettre une pression, mais en effet, on confirme qu'on s'intéresse à ce qui est fait.
Je l'ai perdu. Il y a Luc Joanneau qui souhaite intervenir.
Hop là, je mets le micro. Oui, à minima, dans le cadre de construction aujourd'hui, de construction neuve d'un bâtiment public, à savoir pour la jeunesse, par exemple, à minima, quelles sont les obligations pour une commune en termes d'impact écologique et environnemental et énergétique sur la construction? Est-ce qu'on peut faire une construction d'un bâtiment public aujourd'hui comme on le faisait dans les années 70? Enfin, ou 70 ou 90.
Vous posez presque une question qui serait préférable de questionner à une agence locale de l'énergie ou du climat, par exemple, ou à un CAUE, parce que Brudet n'est pas un organisme technique. Bon, néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que pratiquement oui, sauf sur le côté thermique. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup avancé, c'est le côté thermique, les exigences thermiques. Par contre, les exigences en termes de matériaux, on peut avancer, on va dire. Hein. Et par ailleurs, il y a des exigences qui peuvent être de l'ordre de la qualité de l'air intérieur, notamment pour des publics sensibles, enfance notamment, ou personnes âgées. Voilà.
Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui, récupération d'eau ou éventuellement d'adaptation pour les énergies, de pompes à chaleur, de panneaux solaires ou de choses comme ça.
Alors, panneaux solaires, non. Néanmoins,
ce
comme il y a
dire, des questions si thermiques,
je pense qu'il y a des gens qui vont être… Vas-y, Jean-Paul.
Ouais, je peux intervenir. Alors, je suis vice-président de l'Agence locale d'énergie et climat aussi. Donc, j'ai quelques notions quand même sur ces aspects-là. En fait, en termes de bâtiments neufs, pour l'instant, c'est toujours l'ART 2012 qui s'applique, donc qui quelque part est uniquement axé sur la performance thermique. Par contre, ce qui va s'appliquer là prochainement, c'est la RT, plutôt la RE 2020, qui n'est pas encore complètement finalisée, mais qui quelque part s'intéresse à la fois au cycle global en fait de l'impact de la construction, et donc pas simplement à sa consommation pendant l'usage, mais aussi avec l'ambition d'avoir un bâtiment en fait à énergie positive. C'est le concept de BIPOS là, qui est introduit et donc dans lequel on regarde l'ensemble de l'analyse des cycles de vie du bâtiment, de sa conception à sa fin, pour regarder son impact. Et dans ce cadre-là, effectivement, souvent on intègre des panneaux photovoltaïques et on fait attention en fait aux matériaux, au choix des matériaux. Pour l'instant, c'est pas complètement finalisé. Après, il y a de bon temps. Normalement, ça devrait. C'est vrai que c'est quelque part repoussé de mois en mois cette histoire, mais je pense que pour un nouveau projet, il est de bon ton quand même d'intégrer cet objectif-là, qui commence à être connu par le milieu, parce que là, ça fixe bien quand même les choses.
Merci.
Alors, il y a un long texte sur le chat qui nous par Monsieur Kerguiec. Je ne sais pas, je ne connais pas la commune. Nous engageons un projet d'extension de notre mairie en matériaux biosourcés, mise en accessibilité, augmentation des espaces d'accueil au public, avec une utilisation pertinente de l'espace. Nous voudrions, par exemple, que dans la salle du conseil et des mariages, que la salle du conseil et des mariages soit agrandie, mais qu'elle puisse servir en dehors des quelques heures par an où elle est requise. Avez-vous des exemples de projets où la modularité des espaces a été un enjeu important? Merci. Et c'est la commune de Pluberchrist. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, Michael?
Donc, si quelqu'un a une réponse, c'est aussi l'idée de la rencontre. Hein, c'est que s'il y a des collectivités qui ont travaillé sur ces enjeux-là, qui puissent en témoigner à Pluberchrist. Moi, ce que je peux dire à Pluberchrist, c'est il y a certainement des enjeux, en tout cas ce qu'on a pu voir sur ce type de projet, des enjeux d'accès et donc des questions de est-ce qu'on accède par carte, est-ce qu'on accède par clé, etc., ou boîte à clé extérieure. Enfin voilà, il y a des réflexions de cet ordre-là, de façon à bien isoler dans ces cas-là la salle qu'on voudrait utiliser du reste de la mairie pour que les gens qui voudraient utiliser une salle le week-end. Ah, tu parles d'accès PMR, ok. Tu précises ça, d'accord, ok. Et ensuite, alors sur les accès PMR, bon, ça, on peut avoir j'imagine qu'il y a des étages peut-être, hein, je pense que c'est peut-être ça ta question. On a des communes sur les étages qui ont pu faire non pas des ascenseurs qui coûtent assez cher, mais je pense à la commune de Saint-Médard-sur-Isle qui, pour une rénovation de salle, avait fait une sorte de… Ça correspond plutôt à la réglementation des monts de charge, on va dire, et qui avait répondu à cet enjeu des personnes à mobilité réduite par l'installation de ce mont de charge qui est moins coûteux qu'un ascenseur. Tu aurais un exemple à Saint-Médard-sur-Isle sur un projet qu'on a capitalisé. Je ne sais plus le nom, la rénovation du l'ancien patronage.
Il y a Nathan qui souhaite intervenir.
Oui, bonjour. Je suis actuellement en fait en stage à Ecobatis, un pôle performance en éco-construction à côté de Fougères à Menroc. Et on organise en fait une formation pour les élus justement, pour que le bâtiment devienne un pilier de la transition éco-énergétique pour les collectivités, le 12 janvier, 16 mars et 6 avril, à destination des élus justement, et avec comme formateur Michel Johnson, qui est conseiller énergie-climat à la communauté du commune du Val d'Ille. Et donc ça va vraiment s'adresser en fait avec ces trois journées de formation. Sur ces différents enjeux, la prise en compte des enjeux et après comment on peut répondre aux différents enjeux. Donc, je fais un peu de la publicité pour ma paroisse, mais j'avais envie de vous présenter la formation. Je vais mettre dans la discussion le lien vers les différentes, le programme et différents renseignements, informations. Voilà, merci.
Je confirme la qualité de la formation qui sera dispensée par Michel Janssen du Val du Lobinier, comme qui est adhérente et qui a témoigné de très nombreux retours d'expérience au réseau Brued'aide et qui ont permis à plusieurs autres collectivités derrière d'avancer sur des questions de démarche globale.
De mon côté, Je voulais simplement dire que je trouvais que le message qui a été porté par Brudet était vraiment, dans la démarche, c'était tout à fait ce que l'agence qualité construction plaide, en tout cas, notamment bien réfléchir sur la façon dont on note les offres des maîtres d'œuvre et des entreprises sur la partie technique et la partie purement du prix, par exemple, sur les questions de suivi de chantier, il y a vraiment des choses intéressantes. Et la technique courante, et notamment la question de technique tout courante et de technique non courante, et tout ce qui a un rapport avec l'assurabilité du bâti, est aussi un point très important. C'est un point important déjà pour vous, puisque en termes, si vous avez un désordre, hein, on n'est jamais à l'abri d'un pépin sur son bâtiment dans le cadre de la garantie décennale. Eh bien, c'est être assuré d'avoir une réparation des désordres, mais c'est aussi important pour les entreprises qui interviennent dans le sens où si on pose une technique non courante, on va dire un peu en catimini, sans réfléchir en amont à comment on s'assure, l'entreprise peut vraiment avoir très très mal dans le sens où elle peut mettre la clé sous la porte si les désordres sont trop importants et qu'elle ne peut pas rembourser. Donc c'est un point vraiment vraiment fort. Donc on a au sein de l'agence qualité construction, on a un certain nombre d'informations gratuites sur ces sujets-là. Et en tout cas, si le Brudet souhaite avoir des infos, mais Michael m'a déjà envoyé un petit mail cette semaine. Voilà, nous aussi on apporte des solutions à ces questions, notamment assurantielles, mais de qualité du bâtiment de manière générale.
Merci. Une autre question, peut-être?
S'il n'y a pas de question et que quelqu'un veut faire un témoignage d'un projet, ça peut être ça aussi, hein, ou d'une solution qu'ils ont trouvée, ou d'une, comment dire, une réponse à une problématique qui leur semble intéressante à partager, c'est toujours intéressant. Je n'ai pas tout à fait répondu sur la modularité à Kléber Christ, souligne M. Kerguilec. La modularité, enfin, de ce qu'on a pu voir, c'est, ça s'est beaucoup fait avec ces histoires de cloisons amovibles. Ce qu'il faut peut-être bien identifier, il faut bien regarder les usages que vous avez besoin, et notamment, est-ce qu'on a besoin d'une coupure visuelle ou pas, d'une coupure acoustique ou pas. Et c'est peut-être ça qui peut être intéressant de regarder. Je vois que Dominique Ramard se positionne devant son ordinateur. Dominique, je ne sais pas si c'est pour témoigner, mais il y a un projet qui est mené par Saint-Juvat en ce moment sur la construction en mur terre porteur. Et si tu pouvais en dire quelques mots, c'est un projet qui est tout à fait innovant et qui, voilà, je pense que ça peut être intéressant que tu en parles un petit peu.
Alors, c'était pas pour ça que je voulais prendre la parole. Donc, je vais d'abord ajouter ce que je voulais mettre sur le chat. Donc, en fait, si je bouge aussi entre le fond de la salle et l'écran de l'ordinateur, c'est parce qu'on est trois de la commune de Saint-Juvat dans la salle. J'ai les conseillers en charge des bâtiments et du développement durable qui sont avec moi. Voilà. Et puis, c'était pour répondre aux collègues de Kléber. En fait, la modularité, nous, là, en ce moment, on est dans la salle du conseil, salle des mariages, salle de réunion et salle de tout. En fait, la modularité principale qu'on a, elle vient du mobilier. En fait, il faut penser aussi, par exemple, à des chaises facilement empilables, avec un chariot qui permet de les bouger facilement, ou aussi avec des tables qu'on peut plier et déplacer. Et donc, en fait, on oublie trop souvent que déjà, si on arrive à dégager facilement ce qui encombre une pièce, et bien, tout de suite, cette pièce, elle va retrouver de la place et elle va pouvoir être utilisée à autre chose. Donc, il y a peut-être un sujet de partage de bonnes pratiques autour du mobilier. Voilà. Et donc, puisque tu m'invites à parler du bâtiment, des réflexions, parce qu'on en a plusieurs. En ce moment, on a un prototype de bâtiment avec des murs en terre porteuse, qui est en cours de construction. Donc, on le construit grâce à une collaboration avec l'École d'architecture de Bretagne. On a des étudiants qui sont venus d'abord s'imprégner de Saint-Juvat et ensuite qui nous ont proposé d'élever un bâtiment qui servira de salle des maîtres, mais aussi de salle à destination des associations. Et ce bâtiment, en fait, on le construit au fur et à mesure des idées qui émergent donc de la part des étudiants architectes, de leurs enseignants et d'autres professionnels qui nous accompagnent. Et donc là, pour l'instant, au travers de quelques week-ends où les bonnes volontés se sont réunies, on a réussi à faire déjà deux levées de bauges. L'objectif, c'est que pour la rentrée de septembre 2021, on ait un bâtiment qui soit construit. Et d'une certaine manière, la particularité de ce que l'on mène, c'est qu'au début, il y avait juste une commande de la commune en disant « on a besoin de 30 mètres carrés pour pouvoir accueillir une salle des maîtres ». Et grâce d'abord à des échanges avec ses étudiants, grâce à un voyage au Bénin, où là aussi on a des murs en terre et on a pu continuer à se connaître entre moi-même et les étudiants, on a réussi, peut-être grâce au confinement aussi, où on était un peu obligé de réfléchir à distance et en se réunissant par visioconférence pour faire émerger le contenu du projet. On a réussi donc à faire émerger cette idée de bâtiment prototype que l'on construit donc de manière progressive avec les étudiants et avec les professionnels et les enseignants. Donc l'idée, c'est que ce bâtiment, il est prototype dans son mode de construction puisqu'on le construit au fur et à mesure des idées, mais il va nous servir aussi de prototype pour un bâtiment plus important qu'on souhaite donc construire à Saint-Juva, qui viendra remplacer une partie des usages existants au niveau de l'école maternelle et de la cantine. On ira vers sans doute un bâtiment qui accueillera la salle de motricité, sans doute aussi la bibliothèque. Et tout récemment, il y a aussi un travail autour de la petite enfance avec potentiellement une possibilité d'accueil des assistantes maternelles dans ce bâtiment. Donc, on aura un bâtiment qui sera donc très polyvalent et que donc on souhaite construire en terre porteuse en intégrant un certain nombre d'éléments que vous avez pu aborder. Je remercie les témoignages qu'on a eus en début de réunion et l'analyse et la proposition de méthodologie que Mickaël a pu faire. Mais en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase de constitution du programme. On ira sans doute en début d'année 2021 dans le lancement de cette étude de programmation afin que le bâtiment puisse se monter d'ici la fin du mandat. En tout cas, c'est notre souhait. Voilà où on en est.
Alors, vous avez dans le chat un petit lien vers une présentation du projet, de la réalisation en cours là, de l'extension de l'école, de la salle des maîtres en terre porteur à Saint-Juva. Alors, est-ce que certains ont envie de poser une question, faire un retour, une remarque, témoigner d'un projet éventuellement. N'hésitez pas à prendre la parole directement, hein, c'est pour ceux qui... Voilà, on est suffisamment, on est une trentaine autour de l'écran, donc on peut se permettre.
S'il n'y a pas de questions, je vais en poser une. Est-ce que le Bourdier a prévu d'autres visites de chantier ou de réalisation peut-être dans les mois à venir? Là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Ça pourrait être intéressant s'il y a des partages de connaissances aussi sur le terrain.
Alors, en fait, Brudet organise des visites à la demande de ses collectivités. Donc, en fait, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est qu'une collectivité va nous solliciter pour... organiser par exemple des visites d'école et on va décider d'ouvrir ces visites à d'autres collectivités dont on sait qu'elles sont aussi dans des projets. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va plutôt répondre à la demande. Donc, n'hésitez pas à nous dire, tiens, on aimerait bien visiter tel ou tel type de bâtiment. Alors, il est possible qu'on fasse, je pense à Saint-Juva par exemple, qu'on sera heureux d'organiser une visite pour faire découvrir le projet puisqu'on le trouve très, très intéressant. Je pense aussi à la chapelle Toireau avec la maison senior qui est en petit collectif ossature bois paille. Donc, c'est certainement un projet où on sera un peu force de proposition pour le faire découvrir et visiter en lien avec les élus. Mais néanmoins, dans la plupart des cas, on est plutôt à répondre à la demande des collectivités pour les organiser.
Merci pour la réponse.
Il y a l'équipe de Saint-Juvat qui est déjà intéressée par Bouveron et Saint-Gandon.
Alors, deux communes qui ont fait l'objet d'énormément de visites, notamment Bouveron, qui a été très, très visité. C'est vraiment un projet qui est à voir, un projet d'école qui est conséquent, hein, dont vous trouvez la description aussi sur le site Internet, tout comme Saint-Ganton, qui est bien décrit aussi, budget, descriptif du projet, etc., sur notre site Internet.
Bon, je pense que s'il n'y a pas forcément d'autres remarques ou d'autres questions, Michael, tu as quelque chose à ajouter ?
Non, je pense qu'on peut conclure. S'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'il faut pas. Je pense qu'on peut conclure.
Eh bien, merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci aux témoins, merci à Michael. J'intègre dans le chat. On va faire une enquête de satisfaction au terme de ce webinaire pour essayer d'améliorer à la fois le fond et la forme. Je vous invite à y répondre. On essaye de créer des rencontres conviviales malgré le contexte. Alors n'hésitez pas à faire des remarques, ça nous aidera à améliorer l'organisation et voilà.
Voilà, l'enquête prend 2 minutes à remplir. On n'est pas dans des grosses, c'est pas des grosses enquêtes. Hein. Ça nous est vraiment utile d'avoir vos retours dans ces contextes particuliers.
Il y a Gonaël qui vous invite chez lui à boire le café, parce qu'il dit que la Grigonnet est à 15 minutes de Bouveron pour ceux qui voudront voir le restaurant. Et ben, merci à tous.
Merci à tous. Bon après-midi et bon projet.
Bonne fin de journée. Au revoir.